Bienvenue à cette édition de La Vie en BD, 19e épisode de notre 10e saison. Raymond Poirier au micro, avec vous au fil de la prochaine heure et avec vous au fil de deux entrevues qui vont s'intéresser à des albums, ma foi, fort différents. Parfois, je m'amuse à essayer de mettre un peu en parallèle d'un point de vue thématique ou autre les albums qu'on explore. Dans ce cas-ci, je n'oserai même pas faire l'exercice. En première moitié d'émission, dans quelques instants, en fait, on va se plonger vers l'album La Brume, un album de Mireille Saint-Pierre qui nous est arrivé l'automne dernier du côté de Nouvelle Adresse. Un album qui s'intéresse au deuil périnatal, donc une thématique qui n'est pas nécessairement facile, mais qui est abordée avec une grande poésie et une belle sincérité à l'intérieur de cette première BD de l'autrice. Alors, on en parle avec elle dans quelques instants. Et en deuxième moitié d'émission, on va dans un tout autre style vers l'histoire du Québec. Donc, après l'affaire Delorme, il y a déjà quelques temps, Michel Viaud, scénariste, donc nous revient, cette fois-ci aux côtés du dessinateur Jocelyn Bonnier, vers un autre personnage et de l'histoire criminelle du Québec. Il s'agit de Richard Blass, qui s'était, entre guillemets, illustré dans les années 60-70, multiples évasions de prison, braquage de banques et d'autres commerces et, comme nous le révèle la bande dessinée, des histoires aussi beaucoup plus troubles, disons-le comme ça. Alors, on va jaser avec le scénariste en deuxième moitié d'émission, donc Blass, le chat sur un toit brûlant. C'est arrivé également l'automne dernier, on est un peu en rattrapage, mais cette fois du côté de Glénat, Québec. Alors, voilà le menu pour cette semaine à La Vie en BD. Toujours dans le cadre de La Vie en BD, on plonge maintenant un peu en mode rattrapage dans un album qui est arrivé l'automne dernier chez nos libraires. Il s'agit de La Brume. La Brume, un album qui est arrivé chez Nouvelle Adresse. Premier album de Mireille Saint-Pierre qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Raymond.
Alors, d'emblée, en fait, je pense qu'on va commencer par le cœur de l'ouvrage. En fait, on parle quand même d'une œuvre, La Brume, qui est née dans un drame, dans une tristesse, dans la perte d'un enfant, dans le deuil périnatal. Qu'est-ce qui a amené peut-être, en fait, de cet événement-là vers, justement, l'idée de prendre cette douleur-là puis de la canaliser de façon créative vers La Brume, vers la bande dessinée?
Oh là là, c'est une question... C'est une grosse question
pour commencer.
Dans le fond, tu sais, première chose à savoir, c'est que moi, je suis illustratrice depuis environ une dizaine d'années. Par illustratrice, j'entends que je fais beaucoup de contrats publicitaires, corporatifs, tout ça. C'est un peu comme graphiste, mais vraiment concentré sur l'illustration. Donc, je fais très peu de choses pour moi-même dans ma job de tous les jours. Là, je fais beaucoup de choses pour les autres. Tu sais, c'est un service que j'offre. C'est normal que quand on fait un métier aussi créatif, à un moment donné, on a envie de faire quelque chose vraiment pour soi-même, là, d'avoir sa propre voix. Puis à travers les années, ça m'était jamais vraiment arrivé de savoir qu'est-ce que j'avais envie de raconter. Peut-être aussi le syndrome de l'imposteur, avoir peur de dire « moi, j'ai des choses à raconter » et puis que finalement, ça intéresse personne ou que c'est pas intéressant ou qu'on se plante ou peu importe. En tout cas, pour qu'il la brume... Ben, il m'est arrivé cet accident-là, là, dont je parle, c'est l'histoire de cette bande dessinée-là. Là. C'est la perte de mon enfant alors que j'étais enceinte de 6 mois. Je dirais que quand cet événement-là m'est arrivé, j'ai immédiatement su que j'allais créer quelque chose avec ça. On dirait, c'est comme une opportunité à un moment donné de me dire genre, oh mon Dieu, j'ai vécu ça, ça je peux en parler, ça je le sais. Que j'ai envie de le raconter, puis je sais que ça va intéresser les gens. Donc, c'est à partir de là que la saga est partie, je dirais. Ouais.
Donc, c'est cette douleur-là qui a mené, justement, on s'est dit, bien, OK, j'ai des outils pour donner corps un peu peut-être aussi à ça, pour rendre hommage, donner corps, éviter d'oublier peut-être aussi.
Oui. Oui, exactement, c'est ça, parce que souvent, quand on perd un enfant comme ça, genre en très bas âge ou avant la naissance, une des plus grosses peurs que les parents vivent, c'est la peur d'oublier. C'est la peur que cet enfant-là ait vécu, n'ait pas eu le temps de vivre, puis qu'on l'oublie, puis que le temps passe, puis c'est ça. Fait que, dans le fond, déjà, de prendre le temps de raconter son histoire, c'est rendre hommage à un être vivant qui n'a pas eu le temps de vivre, mais qui a été important.
Oui, puis dans le contexte, en fait, où j'ai l'impression, si on parle un peu avant de tomber dans les aspects visuels, dans l'approche de création, je pense que la thématique elle-même, c'est pas un sujet d'un côté qui est tant amené ou qui l'est de plus en plus, mais qui n'est pas encore bien compris, j'ai l'impression, parce que quand on parle de deuil périnatal, c'est souvent un enfant qui est venu sans venir, qu'on a connu sans connaître, et c'est difficile de partager ça aussi avec les autres parce que les gens vont ramener ça peut-être plus à l'idée d'être enceinte, vont dire ben, tu vas retomber enceinte, c'est pas la fin du monde, alors que ben non, c'est comme
ça. La pire chose à dire. Ah oui, ça, c'est les gens, là, je veux dire, c'est quelque chose, c'est de la maladresse, là, puis c'est pas grave, là, mais je me souviens quand j'ai perdu Romane, les gens me disaient ah, oh, t'es jeune, tu vas tomber enceinte à nouveau, inquiète-toi pas, mais c'est comme non, vous comprenez pas, c'était elle. Puis même aujourd'hui, là, j'ai un petit garçon là, qui a 1 an, puis je l'aime de tout mon cœur, mais c'est le petit frère de Romane. Il ne l'a pas remplacé, cette petite fille-là que j'aurais dû avoir. Donc oui, les gens qui ont dit ça, oui, c'est de la maladresse, mais c'est surtout parce qu'ils veulent réconforter puis aider, tu sais. Puis ils ne veulent pas aussi le deuil périnatal. C'est pas tant que c'est inconnu, c'est que c'est extrêmement tabou. Dans le sens que moi, quelque chose qui m'a vraiment comme choquée quand ça m'est arrivé, c'est que dans le domaine de la santé, tout ça, on me disait oh, ça arrive jamais. Mais non, ça arrive jamais, ça, inquiétez-vous pas, ça arrive jamais, vous êtes correct. Puis là, une fois que ça s'arrive, ben là, tu te rends compte que c'est arrivé à tout le monde autour de toi. Et tout le monde a une histoire de. C'est parce que le deuil périnatal, on s'entend, là, ça inclut aussi les fausses couches. C'est. Il n'y a pas genre à partir de tant de semaines de gestation, tu as le droit d'avoir de la peine. Mais non, là, la personne peut être enceinte depuis une semaine, puis perdre son bébé, puis la douleur est tout aussi grande, puis on n'en parle pas parce que c'est difficile. C'est vraiment pas évident comme sujet. Là. Personne n'a envie de parler d'un enfant qui meurt. Donc, je pense que c'est peut-être un peu ça, j'aime pas dire colère, là, mais ce désir-là de dire non, 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 il faut les raconter, ces histoires-là. Tu sais, c'est ça qui a motivé le projet de la brume.
Oui, en fait, ben, c'est ça. On revient un peu à l'idée de donner corps, parce que je pense qu'il y a des initiatives, tu sais, par exemple, des parents qui vont aller chercher des photographes, prendre des photos de l'enfant une fois que la fausse couche est avérée ou qui est arrivée décédée au monde. Mmh. À travers le dessin, c'est une autre façon aussi. Donc, d'un côté, de rendre cet être-là, puis au bout du compte, la relation que tu as eue avec lui, parce que tu en as eu une aussi à 6 mois, je veux dire, tu le sentais, il vivait, il existait, ouais. Elle vivait, elle existait. Et donc, de rendre aussi un peu cette relation-là, puis ça amène, parce que le dessin a un grand pouvoir d'évocation aussi, une autre façon de montrer qu'à travers la photo ou qu'à travers la parole.
Oui, puis moi aussi, c'était quelque chose, je crois, que la bande dessinée s'est imposée à moi, parce que je voulais raconter ça, mais je pensais pas avoir les aptitudes pour, disons, écrire un roman, je sais pas moi, c'est quoi que ce soit. Puis je me suis dit, mais moi, ma façon de m'exprimer, ça a toujours été le dessin. Donc à partir de là, je me suis dit, OK, bon, ben si je veux raconter une histoire à partir de dessin, ben, je pense que c'est de la bande dessinée. Donc, là, c'est à partir de là que j'ai fait mon cheminement, que j'ai commencé à écrire des semblants de scénarios, j'écrivais des petites lignes, je me suis fait aider par des gens autour de moi qui ont déjà soit écrit, soit pour la télé ou même la bande dessinée, tout ça. Puis sinon aussi, il y a une nouvelle adresse qui est venue assez vite sur mon chemin aussi. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux, je pense. C'est à un moment donné, j'ai mis sur mon Instagram une image qu'on voyait très bien que c'était un sketch d'une idée de bande dessinée. Puis j'ai dit genre... J'aimerais vraiment ça un jour, faire une bande dessinée. Puis Renaud Plante, là, qui est l'éditeur de Nouvelle Adresse, il m'a tout de suite contacté en privé. Il a dit « Hey, si t'as envie de faire une bande dessinée, parle-moi-en. Hein? » Puis je le connaissais pas du tout à l'époque. Là, je veux dire, je savais pas du tout c'était qui. Puis voilà, j'avais trouvé mon éditeur. Ça avait pris quelques heures. Puis depuis, on a tellement bien travaillé ensemble, on a tellement eu du plaisir à faire cette bande dessinée-là ensemble, on a vraiment créé des très beaux liens de confiance. Puis même que je pourrais dire qu'en ce moment, on est en train de travailler sur une nouvelle bande dessinée. Je vais travailler sur ma deuxième bande dessinée en ce moment.
Tout est venu un peu naturellement, dans le fond. On savait tu savais que tu voulais l'exprimer, le dessin s'est imposé, mais à un moment donné, on se rend compte que on veut raconter une histoire, donc il faut avoir une suite, éventuellement qu'il faut avoir des mots. Et donc, la BD est arrivée. J'imagine que, et souvent, quand on se lance dans une première BD, donc tu as l'instinct de création, tu commences à placer les choses, puis là, il y a le moment où, OK, mais là, je me lance dans un 200 pages. Je me lance dans quelque chose que finalement, c'est pas 3 mois d'investissement, c'est pas 3 semaines, c'est des années parce qu'on le fait en dilettante souvent à côté, en plus. Donc,
Ben
c'est.
oui, c'est ça. Moi, au début, je pensais juste faire une short story, tu sais, genre une courte histoire, puis peut-être publier dans un magazine XYZ que j'aurais pu approcher. Puis le plus que le projet prenait de la place dans ma tête, plus je me suis dit, ah, non, non, c'est vraiment une histoire complète que je suis en train de faire. Puis ça a été toute une aventure, là. C'était plus que 2 ans à faire ça, genre, entre guillemets, à temps perdu, parce qu'il fallait continuer de travailler pendant ce temps-là. Donc, oui, c'est comme un peu comme un passage du feu, là, comme on va dire. T'es capable de faire une BD dans ces conditions-là, là. T'es correct. T'es peut-être faite pour faire ça, là, tu sais.
Oui, puis en même temps, j'imagine qu'il y a toujours un peu un double défi parce que d'un côté, tu te mets en scène dans la brume, c'est une réalité d'un drame que tu as vécu toi. Puis en même temps, mais ça veut dire aussi que pendant 2 ans, ce drame-là doit continuer à t'habiter, que tu dois continuer à garder peut-être un peu à l'intérieur des émotions qui sont nécessaires pour que tu puisses donner justice à ce qui s'est passé aussi par la page. Donc, j'imagine que ça doit être particulier par moment, surtout qu'il y a des scènes dans la brume qui ne devaient pas nécessairement être évidentes à mettre en image. Le moment où justement le rêve de cet enfant-là s'éteint, où on est avec l'échographie, c'est le silence, pas de mots dans la BD ni rien. Je veux dire, c'est un moment, je me projette un peu, je me mets à ta place, je me dis, ça ne doit pas être évident à dessiner et à ressasser.
Parce que dans le fond, la manière qu'on peut voir ça, puis je pense que les gens qui font de l'autofiction, ils vont peut-être comprendre ce que je veux dire, mais quand on se met en scène, c'est qu'à un moment donné, ça devient une sorte d'exorcisme. C'est que le personnage que j'ai là, c'est plus moi. C'est mon alter ego, c'est Myriam. Fait que c'est juste un personnage que j'ai créé pour qui j'ai énormément d'empathie, tu sais. Au lieu de toujours comme moi me centrer sur moi, sur ce que j'ai vécu, ah, oh, c'est affreux, c'est affreux. C'est un peu presque une sorte de thérapie, je crois, de passer par l'autofiction. Puis oui, tu sais, faire la bande dessinée, ça a été difficile. Puis j'ai souvent pleuré tout seul devant mes pages. Puis genre, oh mon Dieu, tu sais, ça a été dur. Mais c'est particulier parce qu'une fois que la BD est sortie, les gens ont enfin su c'était quoi qui m'était arrivé. Puis eux, ils étaient tout bouleversés. Puis moi, je suis comme, mais vous comprenez, moi, je pensais à autre chose, tu sais. Mon deuil est fait, puis genre, il n'y a pas cette douleur-là maintenant quand j'en parle. Que là, eux, les gens, quand maintenant ils allaient, ils font comme. Ouais, c'est
Oui, puis c'est un peu là aussi où on amplifie, puis on vient un peu à ce qu'on disait au départ, quand tu
Ben.
disais, c'est du moment où ça t'arrive, tu te rends compte que c'est arrivé à plein de gens autour de toi,
Oui.
ben, du moment où tu lances la BD, tu dis, voici, ça m'est arrivé, tu te rends compte qu'il y a plein de gens au Québec et au-delà qui ont partagé ces mêmes sentiments-là, ces mêmes émotions-là.
Oui, tout le monde a une histoire de que ce soit de fausse couche ou de bébé qui est mort peu de temps avant la naissance ou c'est quelque chose qui est plus commun qu'on croit. Puis moi, une chose qui a, en guillemets, là, je ne veux pas dire que ça m'a soulagée, là, mais le fait qu'il y a eu cette pandémie-là, là, c'est affreux, il n'y a pas eu de salon du livre, là, je comprends, là, c'est vraiment triste, mais en même temps, il y a une petite partie de moi qui est comme ça aurait été tellement difficile d'être dans un salon du livre. De voir tout le monde passer, puis tu sais qu'eux, ils auraient lu ma bande dessinée, par exemple, puis là, ils auraient voulu me raconter leur histoire à eux. Et je comprends ce désir-là de partager, mais moi, émotivement, ça aurait été tellement difficile de recevoir toutes ces histoires-là de deuil des gens que je comprends qu'ils sont légitimes puis qu'ils ont envie de partager, mais pour moi, ça aurait été un énorme poids. Fait qu'il y a une partie de soulagement. Je veux dire, genre comme. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui est très sociable. Là, je fais de l'anxiété de foule en plus. Donc,
Un
ouais,
mal
on
pour un
verra.
bien dans ces cas-là.
Oh, c'est ça. Je suis quand même
Ça
un peu soulagée.
facilite l'entrée en matière.
Ouais.
Et si on se reporte, Mireille Saint-Pierre, dans le fond, au processus un peu de mise en place, donc on arrive, on a l'idée, j'imagine, tu commences à t'installer. Tu dis d'abord, toi, c'est le dessin, c'était ton médium, donc j'imagine
Ouais.
que c'est d'abord un peu le récit visuel, les couleurs, les personnages qui ont commencé à prendre corps, puis après ça, éventuellement, le scénario est arrivé.
Bonne question. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, genre, justement, le syndrome de l'imposteur, tu sais, j'essayais vraiment de raconter une histoire. T'sais, fait que là, il y avait bien du dialogue, puis nanana, puis tout ça. Puis genre, justement, quelqu'un qui m'aide à, qui m'a aidé à écrire mon scénario, c'est Guillaume Corbeil qui s'appelle, qui est écrivain, puis il est scénariste, puis il est dramaturge ici à Montréal. Il est quand même assez bien connu, là. Vous savez, il me dit, c'est toi ta force, c'est les images. Si tu es capable de raconter ton histoire en te servant surtout des images et des mots par la suite. Dans le fond, c'est pas de prioriser les mots, c'était vraiment de me servir des images pour raconter une histoire. Et ça va être beaucoup plus fort. C'est ça que j'ai fait. C'est que dans le fond, là, j'écrivais des dialogues, puis là, OK, comment est-ce que cette réplique-là, je pourrais l'enlever puis la changer par une image? Ça a été ça mon processus. Fait que ça a été un peu un processus de genre en mettre bien épais pour finalement. Non. On tasse ça. J'ai pas besoin que le personnage raconte tout ça. J'ai pas besoin que le personnage dise ça. Juste une image, juste une expression, c'est assez. Puis genre, c'est au lecteur de faire le lien puis de comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça. T'sais. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de scènes dans La Brume qui est vraiment très libre à interprétation aussi. Puis c'est voulu. C'est que peut-être que les gens le lisent puis disent « Ah, non, non, j'avais pas vu ça. T'sais. Ah, oui, c'est ça qu'elle voulait dire. Ah, c'est intéressant. » c'est ça, j'ai pas voulu dicter dans mon lecteur là, qu'est-ce qu'il devait comprendre
Oui,
du
puis il y a
livre.
des moments qui se passent de mots aussi. Je veux dire qu'on n'a
Oui.
pas besoin des mots pour comprendre ce qui se passe. Je reprends l'exemple de la scène dont j'ai parlé tantôt avec l'échographie. Entre la
Oui.
première et la deuxième échographie, la seconde, où le silence est beaucoup plus porteur que n'importe quel mot que tu aurais pu mettre là-dessus.
Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple. T'sais, puis... C'était ça aussi, là. C'est comme je l'ai vraiment vécu ce moment-là, que je suis toute seule dans la salle en train de me rhabiller, puis que c'est extrêmement silencieux. Ouais, c'était vrai. Je pense que dans le vrai aussi, il n'y a pas tant de mots que ça qui se disent aussi, là. Je passe beaucoup par l'interprétation, hein.
Et puis en fait, si on le pousse un peu plus loin, mais tout le passage plus symbolique, par exemple, avec le cheval blanc, ben encore là, c'est comme on est dans le rêve. Et là, ça tombe un peu à l'interprétation. Donc chacun va recevoir un peu ce moment-là d'image à sa façon, un peu comme toi, tu l'exprimes à ta façon aussi, à toi. Mais
Ouais.
j'imagine aussi, c'est après ça de se dire, oh, ben, comment je peux exprimer le sentiment? Ben, passer par le symbolisme, passer par le rêve, ça peut permettre aussi encore là de donner corps de manière différente aussi au sentiment que tu vivais à ce moment-là, puis
Ouais.
au sentiment que ton avatar sur la page vit au moment où elle traverse ça aussi.
Ouais. Ça, c'est fou parce que la scène du cheval, tu sais, faut quand même que j'en parle, là. C'est arrivé pour vrai. Ça, c'est capoté, là. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait que je le raconte. On était vraiment sur le chemin du retour, tout ça, ça venait d'arriver, on était complètement dévastés, on n'a pas parlé dans la voiture de tout le chemin. Puis mon chum, il a vraiment arrêté dans le coin de Saratoga Springs. Ça, c'est une ville qui est reconnue pour ses courses de chevaux. Puis on s'est arrêté dans un stationnement, puis genre, il y avait vraiment cette grosse brume épaisse-là, puis je voyais vraiment des chevaux courir dans la brume. Il arrive des fois ces moments-là qu'on ne peut pas s'expliquer, là. C'est là, puis je pense qu'on peut parler, je pense qu'il y en a qui parlent de ça comme étant de la synchronicité, là. Et on arrive à vivre un moment, puis il est rempli de symbolique, puis on sait qu'il vient de se passer quelque chose d'important, puis je pense à ce moment-là, genre, que j'ai fait genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ça y est, j'ai une histoire que j'ai envie de porter puis de raconter.
Le moment où le déclic se fait, où il y a quelque chose qui se
Ouais.
passe, mais qu'il n'y a rien d'exprimé, que c'est comme toi personnellement, tu en arrives avec un accord à intérieur, dans le fond, ce moment-là, où il y a comme un
Ouais.
OK.
Il vient de se passer quelque chose, tu sais. Puis même chose, même après, tu sais, j'ai fait une recherche pour voir c'était quoi la symbolique du cheval. C'est vraiment ça, le cheval, c'est le passage de la vie vers la mort. Tu sais, c'est un messager, il transporte les âmes vers leur destination finale. Là, j'étais comme, mais voyons donc, voir que j'ai vécu ça. Et je pouvais pas garder ce moment-là pour moi. Il fallait que j'en fasse une BD. Ouais.
Et c'est de trouver, j'imagine, aussi comment équilibrer ces éléments-là, parce que dans la bande dessinée, le corps du livre se place un peu dans l'avant, dans le fond, dans les
Oui.
moments qui ont précédé, où, dans le fond, tu nous entraînes dans l'intimité, dans le bonheur, dans le fond, de ce couple-là. Et dans le fond, j'ai l'impression que c'est important de bien exprimer aussi, de bien prendre le temps de placer les choses pour après ça qu'on puisse partager le malheur. l'impression que si ce qui s'est, si le drame avait été trop rapidement arrivé dans le récit, puis qu'on avait beaucoup mis l'emphase sur la reconstruction, on aurait peut-être perdu un peu de cette intimité-là que tu nous bâtis, que tu nous construis ensemble. Est-ce que ça s'est imposé rapidement, justement, cette structure-là? Je dirais, j'y vois un peu un tiers, deux tiers, là, je simplifie, mais entre l'avant, l'après, l'équilibre un peu entre les instants, dans le fond, entre l'espace qu'on va leur donner.
Ben oui, parce que dans le fond, c'est pour que les gens se sentent touchés puis interpellés parce qu'ils arrivent au personnage, il faut qu'ils comprennent les personnages. T'sais, il faut qu'ils se sentent touchés par eux, qu'ils dégagent une certaine émotion. Puis là, c'est là aussi que ça devient difficile quand c'est de l'autofiction parce que les personnages, c'est nous, là, c'est moi puis mon chum. Puis c'était vraiment difficile parce que même mes premières versions, je me souviens. Je pense que c'est Renaud, mon éditeur, il est comme. C'est Myriam, là, mon alter ego, il dit elle est vraiment rushante, là, elle n'est pas agréable. T'sais. Puis là, j'avais fait de la projection, je n'osais pas me montrer comme quelqu'un de trop bien, de trop gentil ou trop parfait. Fait que j'étais allée dans l'extrême, je m'étais rendue vraiment conne. J'étais vraiment conne dans les premières versions. Puis il dit hey, sois douce avec toi-même, là, t'sais, genre, rends-toi sympathique. Là. Les gens, ils veulent t'aimer quand ils lisent la BD. T'sais. Ça aussi, ça a été comme peut-être un travail qui va presque jusqu'à la thérapie, là, faire comme hey, tu sais, sois douce envers toi-même, crée un personnage que tu as envie d'aimer. Fait que oui, il y a eu beaucoup de travail là. Genre que oui, j'ai fait pour moi, mais aussi pour le lecteur, pour qu'il s'attache au personnage, pour que quand il leur arrive quelque chose, ben tout de suite, ça vienne les chercher. Puis comme oh mon Dieu, oh non, oh non, tu sais.
Oui, puis surtout qu'il y a déjà, dans le fond, tu sais, dans cette première partie-là, Myriam, elle évolue aussi et dans un certain laisser-aller, là, je pense à tout le moment avec le conjoint où elle dit, ben, tu sais, peux-tu faire des choses juste pour le fun? Tu sais, c'est juste te laisser aller, t'amuser à dessiner sans avoir un but précis. Tu sais, on sent que même à l'intérieur de ce moment-là aussi, un certain apprentissage un certain laisser-aller de ce personnage-là, puis peut-être aussi un peu, qui correspond peut-être un peu aussi à ce que tu viens de me dire. Je ne sais pas si je fais des ponts ou il n'y en a pas, mais.
Ah non, absolument. Je veux dire, le livre aussi, c'est comme, je pense, beaucoup de réflexions. Tu sais, peut-être que c'est comme plus en deuxième ou troisième lecture, là. Il y a énormément de réflexions sur qu'est-ce que la créativité, dans le fond. Puis, tu sais, arrêter d'avoir peur. Puis, tu sais, j'ai vécu ce cheminement-là dans ma carrière d'illustratrice, là. Si on regarde un peu le travail que je faisais avant, c'était du dessin très technique. Tu sais, genre, à un moment donné, j'avais l'étiquette d'être une portraitiste. T'sais, je faisais des portraits. T'sais, puis je faisais vraiment bien, puis super réaliste. Puis genre, t'sais, les gens étaient comme ah, wow! T'sais. Mais le problème avec ça, c'est que genre, je faisais des illustrations techniquement très réussies. Donc, j'étais pas. Comment? Je me protégeais avec ça. Je me disais, mon dessin est techniquement réussi, vous pouvez rien dire contre. Mais là, dès qu'on fait de l'illustration qui est un petit peu plus, qu'on s'ouvre un peu, qu'on dit hey, ça c'est moi, tu sais, ça c'est mon côté un petit peu plus livré, flyé, ben là on s'ouvre aux critiques. Alors moi c'est pour ça que pendant très longtemps je me disais genre non non je vais faire des beaux dessins bien réussis. Puis dans la brume je pense que c'est ce cheminement-là, je l'ai vécu pendant que je créais cette BD-là de me dire non 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 je vais commencer à dessiner comment moi j'ai envie de dessiner, comment moi j'ai envie de m'exprimer. Puis même dans ma carrière à un moment donné ça a fait il y a eu une espèce de un shift en français, je ne sais pas comment dire, on pourrait dire ça, un changement de direction que je me suis mise à dessiner comme je voulais. Puis j'ai un petit peu dit, ben, par là, je disais un petit peu aux gens, ben, si ça ne vous plaît pas, tant pis. Maintenant, c'est ça que je suis rendue que je fais. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup servi. En tout cas, je suis beaucoup plus heureuse dans ma carrière que je l'étais avant. Ouais.
Et puis, t'es dans le fond, au bout du compte, quand on regarde La Brume, une de ses grandes forces de cet album-là, c'est aussi justement dans le dessin, dans la douceur qu'il y a dans le dessin, puis dans l'ambiance aussi qui ressort du dessin, parce qu'il y a comme quelque chose, je ne sais pas, c'est. J'essaie de trouver des façons de décrire ça, puis je ne sais pas, il y a juste le terme un peu délavé aussi, le choix d'aller des couleurs dans lesquelles il y a une richesse, qui sont chargées, mais qui a un petit côté délavé aussi qui ressort, qui est omniprésent un peu à l'intérieur de cet album-là, qui lui donne aussi une ambiance particulière, puis qui accentue certains éléments du dessin. Est-ce que
Ah, ben ça, c'est simple, là. C'est comme, c'est pas si réfléchi que ça, c'est juste jaillir les couleurs. J'aime
Tout simplement.
pas ça, les couleurs. Je veux dire, il y a des gens qui, tu sais, ils ont tellement une aisance à trouver, genre, des belles palettes complexes, là, avec des beaux contrastes de... Oh, je suis pas capable. À un moment donné, peut-être que je vais pouvoir réveiller ça, là, puis je vais faire une bande dessinée avec des couleurs complètement explosives, là, mais... Non, je suis pas encore rendue là. Fait que là, dans le fond, ça a été OK, bon, mais là, j'ai pas le choix. Là, ma BD, elle sera pas en noir et blanc. Fait que je vais développer une palette. Ah, du beige puis du marine. C'est ça. Simplement.
Et en même temps, ça crée de l'ambiance. En
Ça
fait, ça
marche.
fonctionne. Donc, c'est venu instinctivement, finalement. Puis
Ouais.
l'instinctif, des fois, ça fonctionne, ça passe naturellement. Puis,
Ouais.
dans un contexte aussi où, dans l'album, il y a des moments sans parole, mais il y a des moments aussi avec musique, en fait, de Nick Cave à
Ouais.
Leonard Cohen. Il y a quand même une présence. Puis, entre autres, l'album se clôt aussi avec une chanson de Cohen par laquelle tu dis un peu adieu à Roman. Donc, ça, c'est venu aussi naturellement, j'imagine, un peu d'intégrer ces éléments-là pour
Ouais.
offrir au lecteur peut-être aussi cette trame-là.
Alors ça a été vraiment difficile. Ça a été comme un des gros défis de la BD, c'est que tu sais, ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai vraiment vécu. On était vraiment à New York pour un enregistrement de l'album d'un ami. Puis là, j'étais comme, j'ai pas le choix que la musique fasse partie de l'histoire, tu sais, parce que tu sais, cette histoire-là aussi, tu sais, je l'ai pas inventé, c'était vraiment les semaines où l'enfant commençait à entendre les bruits dans mon ventre et a commencé à bouger. Puis je suis comme, mais il faut que je le raconte, mais comment je vais le raconter? C'est une bande dessinée, il n'y a pas de son. Ça a été quelque chose, je pense, jusqu'à la toute fin. J'étais jamais satisfaite de la manière que j'intégrais la musique. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, tant pis. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je me suis déjeunée, genre la typographie, là. Au début, moi j'ai un background de designer graphique, là. Fait que moi, la typo, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit belle, qu'elle soit bien calibrée. Puis là, de me dire, non, si je veux mettre la musique dans ma BD, je peux pas mettre la typo belle, calibrée. Tu sais, il faut qu'on sente l'émotion à travers la musique. Donc, ça, je pense que c'est dans les dernières semaines avant que ça aille en impression. Je me suis dit, OK, lâche-toi lousse, là. Écris la musique, comment tu la ressens. Puis, je suis satisfaite du résultat, mais. Ah, tu sais, j'aurais aimé ça encore plus travailler, essayer d'explorer encore plus ça, tu sais, qui dit peut-être pour un autre projet, là. On verra.
Faut
Ouais.
commencer à quelque part aussi.
Ouais, puis
Et la
savoir
discussion.
s'arrêter aussi à un moment donné.
Exactement. Parce que je veux dire, un album, c'est infiniment perceptible, c'est infiniment perfectible. Donc, à un moment donné, il faut dire, ben, OK, c'est une version, ça me convient, puis on se lance avec ça, on plonge. Il faut
Ouais.
savoir quand s'arrêter, finalement.
Ouais, ça aussi, c'est vraiment difficile. Oui, puis je pense que c'est peut-être un petit peu ça la bonne chose quand on a un éditeur, puis qui, lui, il doit bien le publier à un moment donné, son livre, là. Ça donne des échéanciers, là, parce que sinon, je serais peut-être encore en train de la faire, là. Mais, ouais.
Et à quel moment aussi, parce que dans le fond, puisqu'on parlait de musique, dans le fond, il y a les éléments, les références, les éléments typo, puis tu as aussi choisi, parce qu'à un moment donné, il y a l'achat d'un carnet de dessin. Finalement, Myriam se met à dessiner dans des séances d'enregistrement. Tu as choisi aussi de mettre des pages de ces moments-là, donc du vrai travail dans l'autofiction. Est-ce que c'est venu rapidement aussi? On s'est dit, ben OK, faut se permettre d'insérer ce moment-là pour y donner une consistance peut-être un peu plus forte que simplement de la voir s'exécuter. En même temps, j'imagine aussi de décider de ne pas refaire ces dessins-là, mais de les laisser en état de croquis, de nous donner accès au travail brut plutôt qu'à une
Ouais.
version retravaillée de tout ça.
Ouais, ces pages-là, ils ont été vraiment difficiles à créer parce que ça fait comme un peu partie de la narration. T'sais, il faut qu'on voit dans ces pages de croquis-là l'évolution du personnage. Là, je pensais vraiment pas que j'allais me lancer dans un si gros défi que ça à ce moment-là, parce que là, tout d'un coup, là, je me mettais tellement de pression pour ces pages-là, parce que j'étais comme, mon Dieu, mais là, elles sont importantes dans la narration, je peux pas juste sketcher, mais en même temps, ces pages-là, ça doit être juste des pages sketchées, fait que le lecteur doit sentir que ça a été fait sur une impulsion, t'sais, c'est fait spontanément. Mais moi, quand je travaille, c'est pas spontané. Puis, ah, j'ai des faits, j'ai des dessinés, j'ai des redessinés, là, c'est comme... Ça a vraiment été une partie vraiment difficile du processus, étonnamment, là.
Oui, ben ça revient un peu, j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup, c'est tout un apprentissage de lâcher prise, finalement, la brume
Ouais.
pour toi.
Ouais, ben moi, cette bande dessinée-là, c'est le résultat d'une réflexion sur mon travail, sur la créativité, sur le lâcher prise qui aura duré 2 ans. C'est un petit peu comme un mémoire, genre. C'est mon mémoire à moi sur comme comment dans ma vie il a fallu que j'apprenne à lâcher prise autant comme personnellement que professionnellement. Ouais.
Ça veut dire qu'autant pour toi comme individu, il y a un avant-après roman, autant que pour toi comme artiste, il y a un avant-après la brume aussi.
Oui, puis je pense que tu sais, souvent, encore là, quand je parle de, on parle de deuil d'un enfant, de deuil périnatal, ils disent une manière de passer au travers du deuil, c'est de trouver pas une raison pour laquelle ces choses-là sont arrivées, mais une signification. Quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit que dans le fond, c'est de trouver l'héritage que cet enfant-là te laisse. C'est ça, quand cette personne-là, Julie, qu'elle s'appelle, elle me dit ça, j'ai tout compris. C'est que dans le fond, cet enfant-là, si on réussit à trouver l'héritage qui nous laisse, on est capable d'avancer dans le deuil. Puis dans le cas de Romane, je crois que ça a été ça. C'est que grâce à elle, j'ai passé à travers ce cheminement-là. Puis je suis devenue davantage la personne que je souhaite devenir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle m'a réveillée. Tu sais, elle a réveillé beaucoup de choses en moi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle d'elle, c'est un peu moins dans la douleur, tu sais, puis c'est plus dans la reconnaissance. Tu sais, je suis contente qu'elle soit passée dans ma vie, même si je voudrais l'avoir avec moi, là. Je comprends pourquoi elle est passée dans ma vie. Ouais.
Et on peut découvrir, on peut partager une partie de ce cheminement-là, justement en découvrant cet ouvrage-là, je le rappelle, La Brume, qui est disponible chez Nouvelle Adresse, donc La Brume de Mireille Saint-Pierre. Mireille, merci beaucoup.
Hey, merci. C'est vraiment le fun.
Plonge maintenant dans une bande dessinée qui s'appelle Blas, le chat sur un toit brûlant. C'est offert chez Glénat, scénarisé par Michel Viau, dessiné par Jocelyn Bonnier, et une bande dessinée qui s'inscrit dans la suite de l'affaire Delorme, qui avait été offerte du côté des libraires il y a un certain temps. C'était également chez Glénat. Ça nous amenait dans l'histoire criminelle du Québec. On était dans les années 1920 et au-delà. Et maintenant, avec Blas, eh bien, on revient dans l'histoire criminelle du Québec, mais cette fois-ci dans les années 60-70. Michel Viau, le scénariste de cette BD, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, peut-être d'emblée, en fait, Richard Blas, qu'est-ce qui a amené à l'idée, après l'affaire Delorme, de s'orienter vers cette figure du monde interlope, du monde criminel québécois?
En fait, c'est en discutant avec l'éditeur, Christian Chevrier et Rebecca Lecault, les deux personnes de Glénat Québec, on s'est dit, quel est le plus grand bandit québécois, le plus grand gangster québécois, celui qui vient à l'esprit? Et c'était Richard Blas. Pour moi, c'était tout de suite immédiatement Richard Blas. C'était le gars dont on se souvient à cause de ses évasions spectaculaires, ses braquages de banque et tout ça. Donc, on a décidé de faire un album là, sur Richard Blas, tout simplement. Donc, je me suis informé à ce moment-là.
Et j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on s'informe autour du personnage, au-delà de l'idée de départ, on découvre peut-être d'emblée, en termes de caractérisation, qu'il y a des éléments qui font que Blas est un bon personnage de bande dessinée.
Oui. Comme je disais tantôt, il a fait des évasions spectaculaires, il narguait la police, il faisait les médias. Je me souviens quand j'étais petit, parce que j'ai connu là, la période Blas, je me souviens de la célèbre photo en pleine page du Journal de Montréal où c'était Richard Blas avec ses outils de travail, où on le voyait assis sur un divan avec un pistolet et une carabine. Ça frappait, là. Le gars était en cavale depuis 2 mois. Tous les policiers du Québec le pourchassaient et il envoie cette photo-là au Journal de Montréal. Voici Richard Blas avec ses outils de travail. C'était spectaculaire. C'était un type qui était flamboyant, qui aimait les médias, qui aimait se retrouver dans les journaux. D'ailleurs, c'est dans les choses que j'ai découvert. Il aimait ça. En fait, quand il était jeune, il collectionnait les articles de bandits. Il y avait des scrapbooks traînés toute sa vie, des scrapbooks avec des articles sur Bonnie and Clyde, sur Dillinger, tous les bandits là, qui défrayaient la Manchette, Capone, etc. Fait que lui, il se faisait des scrapbooks avec ça. Et là, c'était maintenant lui qui était dans les articles. Et donc, c'était comme le summum pour lui.
Et j'imagine pour le scénariste, entre autres, ça devient une source primaire assez importante, assez utile, parce que là, subitement, il y a beaucoup, beaucoup de journaux, de médias qui en parlent, même si on est dans un contexte où Blas, en lui-même, n'a jamais donné d'entrevue, par exemple, à un média, là.
Effectivement, on n'a jamais la version de Blas sur les faits. Tout ce qu'on en a, c'est ce que la police a pu raconter, ce que les journalistes ont pu raconter. Je me suis fié sur un livre écrit par son avocat, Maître Frank Chauffy, qui a raconté ses relations avec Blas, qui parle des crimes que Blas aurait peut-être commis. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Blas n'a été accusé et condamné que pour des braquages de banque, jamais pour un meurtre, alors qu'on le soupçonne, on lui attribue une vingtaine de meurtres en tout. Légalement, il n'a jamais été condamné pour aucun meurtre. C'est seulement que des braquages. Donc, les sources venaient d'un peu partout, mais pas de Blas lui-même. Alors, donc, j'ai dû combiner tout ça pour créer une histoire. Et on voit justement, comme je disais, que le fait qu'il n'ait jamais été condamné pour des meurtres, on ne le savait pas nécessairement. T'sais, Blas avait, tout le long de ses cavales, de sa carrière, tout ça avait une image quand même sympathique. C'était le braqueur de banque, le petit Canadien français qui tenait tête à la mafia, qui braquait des banques, qui s'évadait de prison, on ne pouvait pas le garder, tout ça. Et donc, il y avait une certaine sympathie pour le personnage. Je me souviens, quand j'ai dit à ma sœur qui travaillait dans le réseau bancaire, quand j'ai dit à ma sœur que je faisais un livre sur Blas, elle m'a dit: Ah, il y a une de mes amies qui s'est déjà faite braquer par lui. Puis elle a dit que c'était pratiquement comique, là. Quand il arrivait dans la banque, les gens levaient les mains en l'air et leur disaient: Là, baissez vos mains, là, on n'est pas dans un film de cow-boy. Fait que les gens rigolaient quasiment, là. Fait que ça, je l'ai rajouté dans le livre. J'ai changé la séquence d'ouverture du bouquin pour ajouter cette réplique-là. Parce que je trouvais que ça faisait vrai, puisque c'était un témoin visuel qui le rapportait. Et ça rajoutait aussi un côté là, qui pouvait montrer que Blas n'était pas pris vraiment au sérieux par les gens. C'est-à-dire que oui, c'était un braqueur, mais on ne le voyait pas comme un gros méchant, là, un bandit, un assassin, un psychopathe. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est révélé être avec le temps, là.
Oui, donc ça devient un personnage qui a un bel équilibre à explorer, dans le fond, parce qu'il y a ce côté sympathique-là, bon, à une époque où on se découvrait aussi une conscience un peu plus nationaliste, et donc d'avoir notre criminel à nous,
On
entre
avait notre
guillemets.
bandit, oui. Et puis, et c'était aussi une époque où les anti-héros étaient populaires. Je pense aux films qui sortaient dans ces temps-là, Luc la main froide, Golden Luke avec Paul Newman, ou qui faisait un bagnard qui n'arrêtait pas de s'évader, Bonnie and Clyde, qui sont sortis aussi dans ces années-là. Donc, c'était une époque où les anti-héros étaient très populaires, où on remettait en question l'ordre établi, et Blas représentait un peu ça, dans le fond, du côté criminel, mais il représentait une remise en question de l'ordre établi. Ça allait dans la révolution tranquille, dans le fond. Pour les gens, là, ça rentrait dans cette logique-là. On conteste, on manifeste et on se rebelle. Fait que Blas pouvait donner l'image du rebelle, du bad boy au début, bad boy sympathique, mais c'est avéré finalement que plus ça allait et plus il dérapait, là.
Oui, et ça devient un peu, ça devient un beau fil rouge, si on peut dire, à exploiter aussi au fur et à mesure de la BD, au fur et à mesure des évasions, où à un moment donné, on sent, et peut-être un peu de part aussi, la façon dont le système criminel est organisé à l'époque. Tu disais, il a juste été arrêté pour des braquages, mais à un moment donné, un braquage, deux braquages, ça finit par offrir une peine pas mal à perpétuité. Donc,
C'est ça.
on rendait cette personne-là, qui avait déjà un déséquilibre, on la mettait dans une situation où de plus en plus, elle avait rien à perdre, finalement.
Exactement, exactement. Blas avait plus d'espoir à la fin, là, parce qu'on pouvait étiqueter un criminel d'habitude. On lui donnait cette étiquette-là, et ça voulait dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui repris de justice. Ça voulait dire qu'on l'enfermait, peu importe la peine. La peine peut être de 10 ans. Mais si on jugeait qu'il n'était pas apte à sortir, on le laissait là. Fait que dans les faits, ça voulait dire que si tu avais l'étiquette de criminel d'habitude, tu allais en prison pour le restant de tes jours. Fait que Blas avait cette menace-là. On le menaçait de lui mettre cette étiquette-là. Il y avait eu un deal avec un juge. Comme il plaidait coupable pour les braquages, puis on ne l'accusait pas de ça, de criminel d'habitude. Mais le juge est mort 3 mois après le deal, puis les policiers sont revenus à la charge pour lui mettre cette étiquette-là. Et là, Blas n'avait plus rien à perdre parce qu'il savait là, qu'il était fait. Là. Il ne sortirait plus jamais de prison. Ce n'était pas une affaire de 10 ans comme il était supposé. c'était la perpétuité. Fait que, il n'y avait plus rien à perdre. Fait que, il était aux abois.
Et du côté de l'histoire, ben, ça veut dire que la dernière évasion a été suivie d'une montée, d'un paroxysme, si on peut dire, de violence. Ouais. Même si la violence était déjà bien présente là, ailleurs dans le récit, j'ai l'impression qu'on sent ce moment-là venir et on sent qu'il y a la capacité d'aller loin dans cette violence-là aussi.
C'est ça, oui. C'est, je me suis servi de ça. Là. J'essayais de, comme je disais un peu plus tôt, il n'y a pas d'entrevue de Blas. Fait que j'essayais de construire à partir des événements, d'essayer de faire une progression dans sa psychologie, de le montrer au début. Tu es quand même tout le temps en train de s'amuser à faire ses coups et de montrer le désespoir et finalement le paroxysme final là, où il est complètement aux abois, il n'y a plus rien à perdre. Là. Fait que, donc, c'est à partir, c'est ça, c'est ce qui a été la difficulté, c'était de prendre les faits qu'on pouvait suivre dans les journaux et d'essayer de construire un récit avec le personnage, avec de construire une psychologie du personnage à partir de ces faits-là.
Et j'imagine que pour valider un peu ça, dans le fond, t'arrives, tu montes un peu cette chronologie-là, tu essaies de voir un peu de quelle manière ça peut s'insérer, et après ça, on va confronter ça, parce que je voyais te jaser avec des Claude Poirier, avec des Bernard Tétrault d'Allopolis, donc avec des gens qui ont suivi, qui l'ont rencontré, qui lui ont parlé, donc ça permet de valider peut-être un peu si ton instinct était bon.
Et oui, exactement. Bernard m'a beaucoup conseillé. Lui, il avait rencontré Blas. Fait que donc, j'ai jasé avec lui avant même de commencer à écrire le récit. Fait qu'il me présentait un peu le personnage, qu'est-ce qu'il était. Et puis, tout au long de l'histoire, on lui envoyait les pages au fur et à mesure, puis il validait là, si c'était crédible, si ça allait avec le personnage. Puis, c'est ça. On a eu aussi Claude Poirier qui nous a fait une préface, là.
Donc, ça permet d'asseoir un peu, de s'assurer justement que tu n'assumes pas trop de choses.
C'est ça.
On va les valider. Là, c'est
ça. Je ne voulais pas faire une fiction à partir de Blas. J'essayais de relater le plus fidèlement possible les faits et en même temps de construire une histoire avec ces faits-là. Il y a des choses que j'ai laissées tomber. D'autres crimes, bon, il y en a plusieurs. J'ai laissé tomber sa jeunesse de délinquant, tout ça. J'ai laissé ça de côté. On fait juste l'évoquer à un moment donné dans une discussion avec son avocat, qui a eu plusieurs petits crimes avant les braquages, tout ça. Mais donc, j'ai essayé le mieux possible de construire une histoire vraie de Richard Blas.
Et tout ça dans un contexte, en fait, je pense qu'on a parlé un peu du personnage dans le contexte dans lequel il se place aussi, mais également le livre nous rappelle que dans les années 60-70, alors qu'on parlait d'effervescence culturelle, on mentionnait tantôt la Révolution tranquille, c'était l'année de l'Expo, ces choses-là, donc on a l'image, c'est un peu romantique du Montréal de l'époque, mais finalement, on découvre aussi que c'était une ville très violente et à la limite, en fait, je pense que c'est la deuxième plus violente, plus criminalisée après New York, là, en Amérique du Nord.
C'est ça, exactement. Oui, il y avait plein de meurtres à cette époque-là. C'est qu'il y avait plusieurs gangs qui se partageaient le territoire montréalais. Blas, lui, c'était ce qu'on appelle la gang du Nord, qui était à Rosemont. Il y avait la gang de l'Est, qui était aussi des francophones. Il y avait la gang du Centre, qui était les Italiens. À ce moment-là, on parlait pas encore de mafia. Le terme mafia a été popularisé par le parrain de Coppola qui est sorti au début des années 70. Fait que dans les années 60, on disait juste que c'était la bande du Centre, c'était les Italiens. Il y avait les Anglais qui étaient dans l'Ouest, tout ça. Fait que, donc, il y avait ces différentes bandes-là qui se faisaient concurrence, qui se braquaient entre elles, qui s'attaquaient, qui se tuaient, qui essayaient de s'accaparer le territoire. Fait qu'il y avait beaucoup de règlements de compte, des chefs de bande qui étaient retrouvés dans leurs valises d'auto, tout ça, là, c'était courant. Et il y avait énormément de braquages de commerce. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que les cartes de crédit commençaient. Ce n'était pas encore très répandu. Il n'y avait pas de carte de guichet. Il n'y avait pas de système d'alarme électronique, tout ça. Et de l'argent, donc, il y en avait partout et était facile à voler. Il y en avait. Fait que donc, quand on parle de braquage, ce n'était pas seulement que des banques. Là. C'était aussi les dépanneurs, les stations-service, les bijouteries, les boucheries, les bars. Il y avait des vols partout, parce qu'il y avait de l'argent partout. Fait que quand on parle que, bon, il y avait des braquages, ce n'était pas tout le temps des fortunes, des 200 000 $. Ça pouvait être un 500 $ là, qui était volé. Mais il y avait constamment, il y en avait entre 5 et 12 par jour à Montréal, des braquages. Vous lisez les journaux de cette époque-là, là, c'était « Oh boy, ce n'est que ça, braquage et règlement de compte, ça se tirait à qui mieux. » Et les policiers n'étaient pas en reste dans l'histoire. J'ai mis une séquence j'ai tenu à la mettre pour montrer aussi la violence des policiers. À un moment donné, il y a un tueur de la mafia qui abat quelqu'un et le tueur est surpris par la police. Il fuit, il se cache dans les toilettes d'une station-service et les policiers n'ont pas négocié avec lui pour lui dire de sortir de là. Ils n'ont pas parlementé. Là. Le gars était coincé, il était dans les toilettes. Ils ont carrément tiré à la mitraillette à travers la porte là, pour le faire sortir. Le gars a perdu ses doigts parce qu'il tenait la poignée de porte. Mais il n'y a pas eu de négociation. Là. Il est enfermé là. OK, boum, mitraillette, tu vas sortir. Que c'était comme ça. Là. C'était excessivement violent. On ne voit pas aujourd'hui les policiers se promener avec des mitraillettes dans leur auto-patrouille. Mais dans ce temps-là, c'était un peu plus courant. C'est assez spécial.
Et donc, ça fait beaucoup d'éléments, j'ai l'impression, à mettre en place parce que rapidement, il faut que tu casses des images. Donc, autant sur l'image qu'on a de Montréal de l'époque et autant, dans une autre mesure, on le disait tantôt, sur l'image de Blas qu'on pourrait avoir, qui n'est pas non plus un bandit romantique, sympathique, façon Bonnie and Clyde, mais qui est justement un bandit assez bulldozer, dans le fond, qui va juste détruire tout sur son passage. C'est pas non plus un génie du crime. On casse des mythes un peu à travers cette BD.
Oui, parce que tu mentionnais Bonnie and Clyde. Ça, c'est le point de vue du réalisateur, Archer Penn, qui a décidé d'en faire des héros romantiques. Je ne suis pas sûr que les victimes de l'époque les trouvaient aussi romantiques que ça. J'aurais pu faire ça avec Blas. J'aurais pu atténuer ses côtés sombres puis montrer juste la victime de la société puis du système carcéral et tout ça. J'ai essayé d'être le plus neutre possible. De montrer la progression du personnage, mais de façon neutre. Voici les faits, voici ce qu'il a fait. Parce que finalement, c'est pas... La perception que je pouvais avoir de lui au début, c'était peut-être un peu ça. Un personnage, un bandit un peu romantique, là, braqueur de banque et tout ça, qui a été abattu par la police. Mais en faisant les recherches, j'ai bien vu là, que c'était pas du tout un personnage romantique. Là, pas du tout, loin de là.
Et j'imagine qu'en partant de ces éléments-là, donc là, on a un cadre, puis je mentionnais tantôt l'affaire de l'orme, parce que, bon, évidemment, c'est pas la première BD que tu fais, et soit la dernière, qui s'intéresse un peu aux faits divers à l'histoire criminelle québécoise. Mm-hmm. L'affaire de l'orme, on était vraiment dans un rythme plus délibéré, c'était l'enquête policière qui menait un peu la donne, et donc tout prenait un peu la couleur de cette enquête-là. Dans Blas, c'est pas l'enquêteur, le héros, c'est le criminel. Et donc, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu plus dans un rythme où on est plus dans un film d'action. Dans quelque chose, ça déboule, ça bouge beaucoup, ça tire beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'est de trouver un peu, j'imagine, le bon type de récit pour le bon fait historique ou pour la bonne perspective qu'on va vouloir y amener.
Oui, et aussi, ben, ça l'a motivé aussi le choix du dessinateur. Jocelyn avait déjà fait, je ne sais pas si tu te souviens, la série L'Oslo, qui était parue dans la collection Rotard, qui était une espèce de justicier masqué, un peu dans le style comic book, là, avec beaucoup d'action. Fait que donc, je trouvais que ce récit-là allait bien avec son style de dessin. C'est ce qu'on voulait. On voulait donner une espèce de côté comic book des années 70 pour aller avec l'époque. Parce que là, on était carrément dans l'action. On n'était pas, il n'y a pas d'enquête. On le sait que c'est Blas qui a fait les crimes, là. On le sait tout de suite dès le début. Fait que, il n'y a pas d'enquête. C'est juste, on suit un criminel. On suit le parcours d'un criminel avec tous les crimes qu'il a commis, les évasions qu'il a commis. Fait que donc, on voulait un récit dynamique dans le style des comics un peu des années 70. Et c'est pour ça qu'on a choisi Jocelyn, qui avait un dessin qui correspondait bien, là, à ce type de récit. Fait que, puis c'est aussi la couverture, le choix des couleurs sur la couverture. On a donné une espèce d'aspect vieilli, un peu sale là, au papier. Là. Imaginez-vous pas, si vous allez en librairie que votre livre est abîmé et sale, c'est imprimé comme ça. La couverture est comme un peu usée là, pour donner un aspect vieillot, comme si c'était un vieux livre.
Oui, ben en fait, ça nous met dans l'ambiance d'entrée de jeu, en fait. On a l'impression que ce livre-là aurait pu, entre guillemets, être publié à l'époque. On a déjà un aspect esthétique qui est très fort et on sent qu'on est ailleurs, même aussi en termes de ton, en termes de style. Et j'imagine que dans cette logique-là aussi, ça ne va pas être évident de faire l'équilibre entre la partie recherche historique, la véracité des décors, mais en même temps, de ne pas sacrifier l'aspect action, l'aspect parcours. Donc, il y a quand même... Je veux dire, beaucoup d'ingrédients qui, naturellement, on ne dit pas, bon, OK, ça va ensemble, ça se cadre bien.
Ouais, c'est le travail de scénariste,
Oui.
c'est de prendre ça, de voir, de prendre les éléments, les faits, et de les imaginer en scène d'action, tout simplement, avec des temps un peu plus calmes entre deux périodes d'action pour expliquer un peu le contexte. Et c'est de trouver la façon d'expliquer ce contexte-là d'une façon fluide. Ça peut être des conversations entre deux personnages. Je l'avais fait aussi dans l'affaire de l'homme, en créant deux personnages fictifs, le journaliste et la journaliste et le policier, le policier expliquait à la journaliste comment le procès allait se dérouler et tout ça. C'est une façon de donner de l'information, puis de rendre ça vivant, donc de le rendre part des discussions. Fait que dans ce cas-là, c'est les flics, à un moment donné, bon, qui réagissent à un nouveau crime, puis qui expliquent dans le fond au lecteur que la ville est partagée en différents gangs qui luttent les uns contre les autres, qui essaient de s'accaparer du territoire. Donc, c'est d'essayer de placer l'information historique d'une façon fluide dans des dialogues. Ça, c'est tout simplement le travail du scénariste. Là,
Oui.
il faut que j'imagine chaque scène. Je prends chaque scène séparément et j'essaie de voir qu'est-ce que je dois passer comme information, à quel moment je dois la passer pour que le reste soit compréhensible facilement pour le lecteur.
Oui, puis j'imagine de savoir en fait, mettons, OK, on arrive à telle séquence, bien là, le lecteur doit savoir ça. Est-ce
C'est
qu'il y a
ça.
toute l'information dont il a besoin? Sinon, bien, comment revenir en arrière puis
Exact.
s'assurer que ça est là, là?
C'est ça, c'est en plein ça. C'est un peu un casse-tête là, pour être sûr que pour pas arriver puis arrêter le récit puis expliquer, voici là, ce qui va arriver. Fait que, donc, il faut que l'information ait été diffusée avant pour que le lecteur puisse apprécier la scène sans qu'on aille à y expliquer, voilà, il va se passer ça. Fait que, donc, c'est le travail de scénariste. C'est tout simplement, c'est mon boulot, quoi.
Puis en termes de travail avec Jocelyn Bonnier, de ce que j'en ai compris dans différentes entrevues que tu as données, donc c'était vraiment un travail conjoint ou même parallèle dans la mesure où la scénarisation se faisait en parallèle du dessin, où on était un peu dans une logique d'inspiration croisée presque, là.
Tout le temps, toujours. Je travaille toujours comme ça avec les dessinateurs. J'aime ça parce que ça me nourrit pour le scénario. Fait que je le sais, dans tous les cas, je sais où je m'en vais. Je connais mon histoire. Je sais, je pars de là, je vais aller là, il va arriver ça, les différentes étapes, mais je n'ai pas les détails. Et c'est au fur et à mesure. J'ai tout le temps une dizaine de pages d'avance sur le dessinateur, ce qui me permet quand même de revenir un peu en arrière selon ce qu'il va me fournir. Mais c'est tout le temps une collaboration très étroite. Et je révise les dialogues jusqu'à la toute fin. Je donne pas le scénario en disant, bon, OK, voici, là, j'ai fait ma part, fais la tienne. Jusqu'à la toute fin, quand tout est dessiné, je repasse toutes les pages et je vais recorriger les dialogues, ajouter parfois une phrase pour être sûr que ça coule bien, tout ça. Comme je disais tantôt, là, pour que l'information soit bien là, je vais faire ajouter une bulle ou quelque chose, mais tout est révisé, là, jusqu'à la toute fin. Je retravaille le scénario. Ben, les dialogues à ce moment-là, ce n'est plus le scénario, c'est les dialogues. Fait que c'est une collaboration perpétuelle là, du début à la fin.
Oui, puis qui permet, dans le fond, des fois aux éléments qui sont amenés par le dessin, ben, de prendre un peu plus de place ou que finalement, OK, ah, il y a
Oui.
telle piste, tu as mis le doigt sur quelque chose, mais ben, OK, on peut l'intégrer, on peut l'utiliser, on n'est pas campé dans quelque chose d'immuable, si on peut dire, ou quelque chose qui est
Exact.
trop avancé pour être capable d'être adapté, d'être ajusté.
Exactement. Ben, je pense à McGuffin et à Alan Smithy. Il y a un personnage, le personnage de Morissette, qui est la troisième roue du vélo, si je peux dire, qui n'était pas prévu du tout dans l'histoire. À l'origine, il n'était pas du tout prévu. Il devait être là juste pour une séquence, une scène au début où il expliquait les détails de la mission aux deux agents. Et finalement, j'ai décidé de l'incorporer dans le récit plutôt que d'avoir un des personnages qui parle tout seul, comme on voit souvent dans les BD. Je vais le faire parler avec l'autre, il va le traîner. Et le personnage s'est imposé, il est resté, finalement, il est toujours là. Mais il n'était pas du tout prévu là, dans l'histoire. Mais c'est en le voyant dans les pages que Ghislain avait dessinées, Ghislain Duguay, en le voyant dans les pages, j'ai décidé de l'intégrer à l'histoire. Donc, c'est vraiment pas là, du travail à la chaîne où moi je fais ma part, toi tu fais ta part, puis on se parle pas. C'est une collaboration toujours. J'aime mieux ça comme ça. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Puis en même temps, ça permet au dessinateur de s'impliquer, qu'il peut me suggérer des choses. Il peut me dire, écoute, là j'aurais besoin d'une page de plus pour raconter ça, ou cette séquence-là est inutile, là, ça a été dit plus tôt. T'sais, le dessin, il l'a montré, tu n'as pas besoin de cette page-là. Fait que, donc, j'ajuste mon scénario en conséquence. Fait que, donc, c'est un échange là, entre les deux. C'est vraiment une collaboration entre les scénarios et dessin.
Et tout ça, dans une perspective, tu mentionnes Alan Smithy et Mike Goffin aussi, Michel, où j'ai l'impression que d'album en album, avec L'Affaire de l'Orme, avec Mike Goffin, Alan Smithy, maintenant avec Blast et avec le prochain qui s'en vient aussi, puisque du côté de Léna, il y a un peu une trilogie qui semble se préparer. Mm-hmm. Donc, on dit, dans le fond, l'histoire québécoise, soit comme décor d'arrière-plan dans des récits pour Mike Goffin, Alan Smithy, soit comme outil de développement d'histoire à travers ces nouvelles, ces actualités, mm-hmm. comme dans L'Affaire de l'Orme, comme dans Blast, mais il y a un potentiel. Et j'ai l'impression que tu nous montres un peu aussi ce potentiel-là sous-exploité à tout le monde à travers le médium de la bande dessinée. Il y a peu de livres, peut-être je pense à L'Espion de trop de Voreau, mais sinon, on les compte pratiquement sur le doigt d'une main, là, surtout si on exclut les tiens.
Oui, exactement. Oui. J'ai toujours trouvé que l'histoire québécoise récente ou ancienne était sous-exploitée dans la bande dessinée québécoise. Il y a plein de sujets. C'est plein. C'est effrayant comme il y en a plein. Et je trouve ça dommage que les auteurs s'investissent pas plus que ça dans cette histoire-là. Il y a, tu mentionnais L'Espion de trop, mais il y a aussi La femme aux cartes postales.
Oui.
Il y a des albums de Michel Rabagliati aussi qui parlent de l'histoire plus moderne québécoise, plus contemporaine. Mais c'est plein de sujets, de petits faits divers qui peuvent être montés, qui peuvent devenir des sujets intéressants. Il y a un sujet que je voulais monter avec Glénat, là, on est encore en cours de négociation, c'était la guerre de sécession aux États-Unis. Il y avait plein d'espions sudistes à Montréal. C'était un nid d'espions à Montréal à cette époque-là, en 1864. Là, les espions sudistes, parce que bon, le Canada était neutre, mais le Canada n'existait pas encore à l'époque. Là. C'est justement la Confédération est issue de la guerre de sécession américaine, ça pour se défendre. Mais c'était plein d'espions qui étaient à Montréal. Et il y a même eu des raids qui sont partis du Québec pour attaquer des villes du nord des États-Unis. Le raid de Saint-Alban, qui est sur le lac Champlain, c'est l'acte de guerre, de la guerre de sécession, le plus au nord qu'il y a eu, mais les bandits sont partis de Montréal pour aller attaquer. Donc, il y a plein de sujets comme ça, c'est plein. Il suffit de se pencher, d'ouvrir un livre. Mais c'est ça, c'est dommage qu'on n'ait pas... tu sais, il n'y a pas de BD qui se passe à Montréal en 1880. Tu sais, il n'y a pas ça. Pourtant, il y a des sujets.
Oui, c'est il y a des sujets, puis il y a des séquences, puis si on revient à Blast, par exemple, je pense que c'est une des évasions, je pense que c'est la dernière, je veux dire, ça pourrait être arrangé avec le gars des vues, je veux dire, ça serait pas ancré dans l'histoire, je te dirais, OK, t'as inventé, puis c'est rocambolesque, c'est pas réaliste, là.
Ça n'a juste carrément pas d'allure. Moi, je me suis dit, en le faisant, les gens me croiront pas, ils vont dire, c'est ça, que c'est tellement nigo, là, que tu... Vous avez l'ancienne maîtresse de Mérine, qui se présente à la prison pour voir, c'est Jean-Paul Mercier. Elle se présente là sous un faux nom, avec des pistolets dans sa sacoche. Il n'y a personne qui a vérifié son identité, il n'y a personne qui a fouillé son sac. C'est incroyable. Tu te dis, voyons, c'est quoi ce système carcéral-là? Puis en même temps, on persécutait les détenus, mais tu avais du laxisme de l'autre côté. C'est délirant. Je dis, les gens ne croiront pas, mais c'est effectivement ça. La fille est venue avec des pistolets dans sa sacoche et les a donnés à Mercier qui s'est évadé. C'est comme ça. C'est fou de même.
Et donc, en fait, on découvre ce pan-là avec l'histoire de Blast et on le disait, il y a un troisième livre aussi qui va s'en venir où tu retournes travailler avec Grégoire Mabie pour un autre fait.
Oui, et aussi avec Jocelyn. J'en ai deux pour le moment. Grégoire est occupé sur un autre projet, mais j'ai d'autres projets là, d'histoire criminelle. Il y a entre autres une histoire qui se passe à Québec, le meurtre de Blanche Garneau, qui m'intéresse beaucoup. On en a parlé beaucoup dans les journaux cette année parce que c'était le centième anniversaire de l'événement tragique. Là. Il y a aussi l'affaire Coffin, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, je parlais aussi des espions confédérés à Montréal, qui est un autre sujet intéressant aussi. Donc, j'en ai plusieurs là, en banque. Puis, j'ai aussi McGuffin qui continue à progresser.
Alors, tu continues à te faire faire un travail d'archive aussi et de scénariste assez intense.
Oui, c'est ça. Oui, je me suis embarqué dans quelque chose, dans le fond, où je passe mon temps à lire beaucoup, beaucoup sur l'histoire du Québec. Là, c'est ça. Là, actuellement, je lis sur Blanche Garneau, puis je lis aussi sur d'Iberville, qui est un autre personnage très intéressant.
Un sujet amène un autre, autour des bois de Pandore.
Non. Disons que c'est quand même assez long à faire, un scénario de ce type-là. C'est pas je m'assois et puis je vais écrire une histoire de cowboy. Il y a beaucoup de recherches. On dit souvent que le scénariste écrit son scénario en 3 mois puis que le dessinateur en a pour 1 an à dessiner. Mais ça me prend peut-être 3 mois à écrire, mais j'ai peut-être 1 an de recherche avant aussi. Là. C'est pratiquement aussi long pour moi faire un scénario que pour le dessinateur à le dessiner.
Oui, puis j'imagine recherche factuelle puis aussi recherche visuelle, savoir un peu le Montréal exact. De telle époque, il y avait l'air de quoi, la prison, ça avait l'air de quoi, c'était comment, c'était beaucoup d'éléments à valider. Là. C'est...
Pour imaginer l'histoire, j'ai besoin de voir les lieux. Fait que je passe beaucoup de temps à chercher justement les rues, les bâtiments, de quoi ça avait l'air, pour que je puisse imaginer comment les personnages se déplacent dedans. Fait que, puis ça, c'est, ben, cette recherche-là sert finalement au dessinateur parce que je lui refourgue tout au fur et à mesure. Je dis, tiens, voici, le tel bâtiment, c'est de ça qu'il a l'air. Le palais de justice, c'était ça. Oui, j'ai besoin de le visualiser. Pour imaginer la scène, j'ai besoin de voir de quoi ça avait l'air. Fait que donc, il y a beaucoup de recherches, autant visuelles que factuelles, en amont de la rédaction du scénario.
Et on découvre évidemment le travail, le résultat dans l'ouvrage final et l'ouvrage, mais dans le cas qui nous concerne, Blast, donc qui est disponible chez Libraire depuis déjà quelques mois. Donc, ça s'appelle Blast. C'est sous-titré, dans le fond, puisqu'il y a eu une multitude d'évasions. Le chat sur un toit brûlant. C'est donc dessiné par Jocelyn Bonnier, scénarisé par Michel Viaud. Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. Toujours un plaisir, évidemment, de se retrouver ensemble pour parler bande dessinée. C'était Raymond Poirier au micro et je vous dis à la semaine prochaine.